Bon, je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour ton appel qui nous a donné cette marche pour venir aujourd'hui écouter ta parole. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui fonde le sens de notre existence, et nous te prions Seigneur que nous soyons complètement disponibles pour toi, à la fois ce matin pour entendre ta parole, mais aussi chaque jour de notre vie. Seigneur, c'est aujourd'hui le dimanche où nous fêtons l'envoi de ton esprit, et nous voulons te prier pour que cet esprit soit dispensé largement à ton Église, celle que nous représentons ici à Alès, mais aussi partout dans le monde. Seigneur, nous te prions que ton esprit nous remplisse et que ta parole atteigne le but qu'elle s'est fixé. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous m'entendez bien ? Ça va ? Voilà, exceptionnellement, je ne vais pas prêcher sur le texte de Pentecôte. Parce qu'on reste dans cette lignée qu'on a commencée il y a déjà quelques semaines sur l'appel, et c'est quand même pas complètement à côté, hein. Il y a deux semaines, on avait terminé avec ces mots: nous sommes sauvés de quelque chose pour être appelés à quelque chose. On entrait dans cette dimension de l'appel, appel qui a été prêché la semaine dernière concernant la vocation du prophète Jérémie. Et aujourd'hui, en fait, on voulait poursuivre sur cette dynamique qui nous fait passer de la mort à la vie par la grâce de Dieu. Et évidemment que le Saint-Esprit a un rôle à jouer là-dedans. C'est aussi en lien avec ce que nous allons étudier ensemble cet après-midi, cette fiche qui parle de la souveraineté de Dieu en même temps que de la responsabilité de l'homme. Je vous invite donc à lire avec moi ce texte ce matin. Éphésiens au chapitre 2, les versets 1 à 10. Éphésiens 2, 1 à 10. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous, en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Petite parenthèse, mais nous sommes son ouvrage en grec, c'est nous sommes son poème. Ça ne revêt pas tout à fait la même dimension. La particularité du message de l'Épître aux Éphésiens se trouve dans la volonté de l'apôtre Paul d'inscrire la foi de ses interlocuteurs dans le plan de salut de Dieu, qui va d'avant la fondation du monde jusqu'à la récapitulation de toutes choses en Christ. C'est en fait dans ce mystère-là qu'il veut les faire entrer et leur permettre d'apercevoir ce que pourrait être la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Au premier chapitre d'Éphésiens, Paul mentionnait que c'est réellement par grâce que Dieu nous a sauvés. Et dans le chapitre d'aujourd'hui, il met plutôt l'accent sur les grandes richesses et les bénédictions que nous avons reçues de la part du Seigneur. Il explique davantage la grâce que Dieu nous a accordée au moment de notre salut. Et pour faire cela, eh bien, il décrit d'abord la vie dont nous avons été sauvés. Ensuite, il explique de manière plus détaillée la grâce que Dieu nous a accordée, puis il enseigne que c'est par cette même grâce que nous devons vivre la vie chrétienne. En fait, les deux premiers chapitres d'Éphésiens, ils portent tous les deux sur le salut, évidemment, hein, mais ils mettent l'accent sur des points différents. Le premier focalise sur les bénédictions qui découlent de notre salut, alors que le deuxième traite davantage de la grâce et de la miséricorde de Dieu, qui sont à la fois à l'origine de notre salut, mais qui sont aussi la cause de la façon dont on va pouvoir vivre. Ce passage que nous avons lu couvre à la fois le passé, le présent et l'avenir pour chacun de nous. Il ne nous parle pas d'une chose qui serait faite et plus à faire, par exemple. Il commence par dresser le tableau de notre condition, ce que nous étions, dans les versets 1 à 3. Ensuite, il nous présente le salut de Dieu, ce que Dieu a fait, ce qu'il fait et ce qu'il continue de faire, dans les versets 4 à 7. Et enfin, il montre comment tout cela s'articule, ce que Dieu fait et aussi ce que nous, nous sommes appelés à faire, dans les versets 8 à 10. Alors, ce que nous étions d'abord. Ce chapitre 2 s'ouvre sur un tableau assez désespérant quand même de l'état de l'homme. Un triste constat qui se résume en un mot, celui de mort. Constat qui peut paraître fort sévère, mais c'est pourtant là ce que la Bible affirme concernant la situation de l'homme devant Dieu suite à la désobéissance d'Adam et Ève en Éden. Genèse au chapitre 1, versets 16 et 17 dit « L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » On retrouve cette idée dans l'épître aux Romains, où Paul, au chapitre 6, dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Le péché introduit donc une rupture entre Dieu et l'homme, de sorte que depuis la chute, tous les hommes, quoi qu'ils fassent, sont spirituellement morts. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas la communion avec Dieu. Ésaïe explique ça, le prophète Ésaïe au chapitre 59 dit « Ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. » Ainsi, la séparation d'avec Dieu, c'est la mort. La deuxième vérité concernant la condition de l'homme depuis la chute, c'est qu'il est esclave. Pas seulement mort, mais esclave. Quoi qu'il puisse prétendre, même s'il pose la liberté toujours comme fondement de sa vie et qu'il le crie sur tous les toits, l'homme naturel est esclave du monde d'abord. Le cours de ce monde ou le siècle de ce monde dont il est question dans ce texte, c'est finalement, on pourrait dire, cet ensemble de systèmes de valeurs qui est étranger à Dieu. C'est la société organisée sans Dieu. Sécularisé, déshumanisé, amoral, qui rejette les absolus, qui prône une conception matérialiste de la vie et humaniste et égocentrique, en dehors de toute relation à Dieu. Alors, si on voulait donner quelques caractéristiques du train de ce monde, on pourrait dire l'orgueil, la convoitise, la cupidité, la réussite personnelle, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que même si l'époque et la culture déterminent lesquelles de ces caractéristiques ont le plus d'importance, elles sont quand même restées sensiblement les mêmes au fil des années. Paul utilise l'expression « par nature » pour expliquer que le péché, ça n'est pas simplement un comportement extérieur, mais que ce dernier prend naissance dans un cœur qui est fondamentalement corrompu. C'est une doctrine chrétienne qu'on appelle la dépravation totale. Et cette doctrine affirme que toutes les facettes de notre être sont corrompues par le péché. Alors, ça ne signifie pas que tous les humains sont aussi corrompus qu'ils pourraient l'être, ni que tous sont corrompus au même degré non plus. ou dans tous les domaines, ou encore que personne ne pourrait faire d'actes bons. C'est pas ça que ça veut dire. Ça signifie que nous sommes par nature souillés par le péché, et donc que notre tendance naturelle, c'est de vivre loin de Dieu. Esclave de ce monde, l'homme naturel l'est aussi du diable, puisque c'est le diable qui gouverne le monde. Satan est à l'œuvre dans le monde et constitue une puissance d'aveuglement et d'asservissement. Et toute l'Écriture enseigne que seul Christ peut nous affranchir de cet esclavage-là. Dans ce chapitre, Paul continue de décrire cet esclavage en disant que l'homme est aussi esclave de la chair. Alors la chair, ça ne signifie pas le corps, hein. Le problème n'est pas le corps, c'est pas non plus la sexualité qui n'est pas mauvaise en soi, puisqu'elle est au départ un don de Dieu, en tout cas dans un cadre précis. La chair, c'est plutôt le moi, la volonté orgueilleuse de l'homme qui prétend pouvoir se passer de Dieu, qui ne voudrait s'appuyer que sur lui-même, sur ses capacités naturelles. Ce moi, c'est, on pourrait dire, l'orgueil humain, finalement. Celui qui lutte contre la seigneurie du Christ, qui s'oppose à son règne de justice et d'amour. C'est ce moi qui dit, ni Dieu ni maître, je fais ce que je veux. J'ai pas besoin d'un Dieu. J'ai pas besoin d'un sauveur. Finalement, dit Paul, nous étions des enfants de colère. Ce qui signifie qu'en raison de sa sainteté, Dieu aurait pu nous détruire. Parce qu'il ne peut tolérer la présence du mal, sa sainteté l'interdit. La colère de Dieu, finalement, c'est la révolte d'un Dieu qui n'accepte pas que ses enfants renoncent à leur liberté et se laissent enfermer par le prince de l'autorité de l'air. On pourrait dire que Dieu est en colère contre tout ce qui abîme l'humain et ce qu'il a créé en général. Alors, pour que nous ayons une meilleure compréhension de la grâce que nous avons reçue, Paul nous décrit en détail cette vie dont nous avons été sauvés, ou plutôt cette mort dont nous avons été sauvés. En d'autres termes, même si c'est un peu long, il nous est impossible de comprendre la valeur de ce que nous possédons en Christ si nous ne saisissons pas d'abord à quel point nous étions perdus. Nul n'apprécie mieux la richesse ou le confort que celui qui en a été privé. Alors l'intention de l'apôtre, ça n'est pas de nous désespérer avec cette première partie, hein, mais c'est bien de montrer que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et c'est le deuxième point, « Mais Dieu ». Section qui commence avec le mot « mais », qui change tout véritablement. Paul y met l'accent sur le fait que nous n'avons pas reçu ce que nous méritions, mais que Dieu nous a accordé sa grâce et sa miséricorde. La grâce est un don immérité que nous ne pouvons jamais obtenir par nos propres moyens. Et réellement, il s'agit d'un don, d'un cadeau. Pour être sauvés, la seule chose que nous devons faire est de recevoir ce que Dieu donne dans sa grâce. Et ce don, c'est Christ lui-même, nous dit l'Écriture. Par Christ, nous recevons d'abord le pardon de nos péchés, qui sont complètement effacés. Puis Dieu nous habille et nous revêt de sa justice. Et quand il nous regarde, d'une certaine manière, il voit la vie parfaite que son Fils a vécue. Paul met l'accent sur le fait que cette grâce nous a été accordée alors que nous étions encore morts dans nos péchés. C'est-à-dire, Dieu n'a pas attendu qu'on essaye de s'améliorer, voyez, pour dire, bon, lui, peut-être, on peut en faire quelque chose. Non. Nous ne pouvions rien faire pour nous sauver nous-mêmes, et au moment où cette grâce nous a été accordée, nous étions encore activement dans un état de rébellion. Voilà ce que Paul est en train de nous expliquer. Il nous dit, Dieu maintenant prend la situation en main parce que lui seul peut le faire. Et il le fait à cause du grand amour dont il nous a aimés. Son moyen, c'est l'œuvre de Christ. Jésus a vécu parmi nous, il a connu la mort, il a pris sur lui nos péchés et nos offenses pour nous en délivrer. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, nous offrant le gage de notre propre résurrection. Par l'ascension que nous avons fêtée il n'y a pas longtemps, il est monté au ciel et il intercède pour nous en nous préparant une place. Puis ensuite, il envoie l'Esprit. Alors dans ce texte, il y a trois étapes qui nous concernent directement et Paul insiste sur le fait que dans chacune de ces étapes, rien n'est le fait de l'homme. On n'y est pour rien. La première de ces étapes, c'est que Dieu nous a vivifiés. Et effectivement, un mort ne peut pas faire le moindre mouvement vers Dieu. Mais Dieu fait sortir de la mort. Et la vie qu'il donne, il est le seul à pouvoir la donner, puisque c'est une vie divine, une vie éternelle, dont l'apôtre Jean nous dit que cette vie se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. La deuxième étape, il nous a ressuscités. Entendez bien, pas il nous ressuscitera, il nous a ressuscités. On ne fait pas toujours bien attention au temps des verbes. Notre relation avec Christ ressuscité nous place, nous aussi, sur ce terrain de la résurrection, dans un état de nouvelle création déjà maintenant, comme Christ se trouve lui-même. Et donc cette vie divine que nous avons reçue, elle s'accompagne d'une puissance active, qui évidemment est celle de l'Esprit, qui va permettre de traverser ce monde victorieusement comme lui l'a fait. Voilà l'idée de ce « il nous a ressuscités ». Et troisième étape, il nous a fait asseoir. Là aussi, c'est au passé. Il nous a fait asseoir, c'est fait. Et être assis, ça correspond à une position de repos. Quand on est assis, c'est qu'on est en sécurité, c'est qu'on est tranquille. Christ goûte ce repos après son service sur terre, parce qu'il a remporté toutes les victoires. Et notre relation avec lui, qui est assis à la droite de Dieu, s'accompagne de cette jouissance par la foi de tout ce que comporte cette position. Et c'est ça que nous avons du mal, en fait, à vivre, à réaliser, à comprendre et à vivre. Nous sommes associés à Christ qui est au ciel, dans le repos. Nous sommes associés au résultat de l'œuvre dont lui seul est l'artisan. Nous sommes associés à cette victoire. Alors, je ne crois pas qu'un jour on comprendra pleinement ce que ça veut dire. C'est pas grave si on sort d'ici sans avoir tout compris. Mais en tout cas, il y a une chose qu'on pourrait se dire chaque fois qu'on a tendance à se laisser aller au découragement, c'est se répéter qu'on siège à la droite de Dieu, avec Christ dans les lieux célestes. Ça change quand même les choses. J'appartiens au conseil de Dieu. Je suis fils ou fille de roi. Je voudrais, frères et sœurs, ce matin que tous ensemble nous mesurions vraiment le poids de ces deux mots qui ouvrent le propos de Paul au sujet de la délivrance en Christ, mais Dieu. Nous sommes pécheurs, nous sommes spirituellement morts, nous sommes esclaves du monde et de Satan, nous sommes sous la malédiction de la loi, tout ça par nature, mais Dieu. Il y a un mais. Arrêtons-nous un instant et comprenons ce que cela veut dire. Dieu est riche en miséricorde. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de faute impardonnable aux yeux de Dieu, pas de situation désespérée qu'il ne pourrait pas traiter. Son bras n'est pas trop court pour sauver. Son amour pour nous ne connaît pas de limite. Il nous connaît, il sait de quoi nous sommes formés. Il est un Père prêt à pardonner et qui, en Christ, veut faire de nous de nouvelles créatures, à l'image de son Fils. C'est ce que dit le psalmiste au psaume 103. L'Éternel est compatissant et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est efficace pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. J'aimerais que nous goûtions tout à nouveau à cette compassion de Dieu, qu'on l'expérimente vraiment, qu'elle nous saisisse, qu'elle nous émeuve, de sorte qu'on ne doute pas ou qu'on ne doute plus de l'amour de Dieu pour nous, de sa puissance de guérison qui peut absolument tout transformer en nous, qui peut changer notre vie, qui peut nous faire prendre un nouveau départ peut-être, dans la confiance et dans la joie. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Ailleurs, l'apôtre dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors si parmi vous, il y en a un ce matin qui est un peu désespéré de la vie, qui ne voit pas très bien comment Dieu pourrait lui accorder le pardon de ses péchés, s'il en est un ou une qui pense avoir atteint un point de non-retour, de sorte que l'Évangile ne serait pas pour lui, qu'il me soit permis de lui dire une fois encore, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Le verbe « sauver » signifie aussi « guérir ». Être sauvé, c'est vivre une vie guérie de ce qui nous alourdit, une vie animée par la grâce et le don de Dieu. Et nous arrivons au dernier point de ce passage, ce que Dieu fait et ce que nous, nous sommes appelés à faire. Ce dernier enseignement qui peut passer inaperçu dans un passage qui traite surtout de la grâce que Dieu nous a accordée lorsque nous avons reçu Christ comme sauveur personnel. Cependant, le verset 10 particulièrement apporte une nouvelle idée. Paul y déclare que la grâce n'est pas seulement ce qui nous amène à connaître Christ, mais c'est aussi ce qui nous permet de grandir spirituellement. Comment sommes-nous venus à Christ? Eh bien, d'une façon ou d'une autre, nous avons reconnu notre impuissance et notre besoin d'être sauvés. Nous nous sommes reconnus dans les morts, des versets 1 à 4. Puis nous avons reçu le don gratuit de Dieu qui nous a secourus. Et de la même manière, maintenant que nous sommes chrétiens, nous ne devrions pas essayer de vivre la vie chrétienne par nos propres forces. Nous avons été incapables de nous sauver par nos propres forces. Comment pensons-nous pouvoir vivre la vie chrétienne par nos propres forces? Alors qu'il nous suffit de dépendre de Dieu et de sa grâce. Inutile d'essayer à tout prix, par exemple, par nous-mêmes, de faire de bonnes œuvres. Et on continue d'essayer quand même. Hein. Paul enseigne dans ce passage que ces mêmes œuvres bonnes, Dieu les a préparées d'avance pour nous, afin que nous ayons la possibilité de le glorifier. La souveraineté de Dieu se voit fort bien, à mon avis, ici, parce qu'il a tout prévu et tout s'accomplit selon son dessein. Mais nous n'en sommes pas moins responsables d'entrer et de marcher ou pratiquer dans ces œuvres que Dieu a prévues d'avance pour nous. On trouve la même idée en Matthieu 6, quand Jésus enseigne la prière du Notre Père. Juste avant, il dit « Votre Père sait d'avance ce que vous allez demander et de quoi vous avez besoin. » Et puis il enchaîne en disant « Voilà comment il faut prier. » Ça paraît contradictoire, hein ? On se dit « Bah, si il sait déjà, c'est pas la peine de prier du coup. » C'est exactement ce paradoxe-là, la souveraineté de Dieu qui sait et la responsabilité de l'homme qui doit quand même apporter les requêtes. Si nous souhaitons découvrir quelles sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, nous devons demeurer près de Christ en lisant la parole et en priant. Parce que c'est en vivant cette communion plus étroite avec Dieu et en dépendant constamment de lui que nous pourrons avancer. Ça n'est jamais par nos propres forces. Alors j'en termine. Dieu s'est engagé par un amour inconditionnel et la raison pour laquelle Paul insiste autant sur les conséquences de ce qu'on a reçu, c'est que si on les comprend bien, ça va tout changer. Ça va nous changer. la manière de grandir dans la vie chrétienne et d'avancer, alors que parfois on a l'impression de faire du surplace, voire même de reculer. La manière de grandir, ça n'est pas de faire des choses que traditionnellement on va appeler des choses chrétiennes. C'est avant tout d'être enraciné dans ce qu'on a reçu. Il s'agit d'abord d'être, et même d'habiter, j'ai envie de dire, habiter, caché en Christ. Être plutôt que faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais il y a un ordre de priorité. Et comment l'être, sinon en comprenant à quel point l'amour de Dieu est inhabituel et total. Je ne crois pas qu'on ait jamais fini de comprendre ça, et je ne crois pas qu'on doive se lasser d'entendre prêcher la grâce et l'amour de Dieu, et d'où on était parti, à quel moment le Seigneur nous a pris pour nous emmener ailleurs. Comprendre ces vérités, ça transforme et ça nous rend libres. Même dans les circonstances difficiles, on a une autre perspective. Et cette liberté qu'offre Dieu par le Christ, qui le met en colère d'ailleurs quand on se remet nous-mêmes en esclavage, cette liberté, c'est par l'Esprit Saint que nous pouvons la vivre. L'Épître aux Corinthiens dit « Là où est l'Esprit, là aussi est la liberté ». Alors voilà cet aspect du salut dont il n'est pas parlé directement dans ce texte. Mais nous sommes le dimanche de Pentecôte, et si on regarde l'envoi de l'Esprit comme on peut le lire dans le livre des Actes qu'on lit chaque année, nous voyons là aussi la souveraineté de Dieu qui décide où, quand, comment ça va se passer. Mais nous voyons aussi la responsabilité de l'homme, puisque les disciples avaient reçu ce commandement de la part du Seigneur Jésus et devaient obéir à ses paroles. Jésus avait dit de se réunir à tel endroit, à tel moment, d'attendre le Consolateur. Recevoir l'Esprit Saint, ça dépendait donc de la souveraineté de Dieu qui donne au moment opportun, mais aussi de la responsabilité de l'homme qui se soumet à la volonté de son Dieu. Il en va de même pour nous, dans notre marche par l'Esprit, marche à laquelle nous sommes appelés à la suite de Christ, afin de vivre en nouveauté de vie. Nous étions morts, mais Dieu, dans sa souveraine grâce, nous a fait passer de la mort à la vie. Bien plus, il nous appelle à entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et cette marche-là ne peut se faire que par l'Esprit que Dieu donne, avec une grande liberté et une grande abondance. Que le Seigneur trois fois saint soit loué et glorifié. Amen.